je les entendis se réveiller. Mon fils d'abord, puis Pénélope, et enfin Télémaque, qui était allé se coucher si tard. Un par un, ils arrivèrent dans la grande salle, et je les sentis marquer un temps d'arrêt quand ils m'aperçurent à la fenêtre, tels des lapins qui surveillent l'ombre du faucon. La table était vide, rien n'était sorti pour le petit déjeuner. Mon fils se précipita vers la cuisine pour disposer des assiettes avec fracas. J'aimais sentir leurs regards silencieux dans mon dos. Télégonos les pressa de manger d'une voix lourde d'excuses. J'imaginais très bien les mimiques qu'ils devaient leur faire. « Désolée pour ma mère, parfois elle est ainsi. »« Télégonos !» ordonnai-je. « La porcherie a besoin d'être réparée avant l'orage. Tu vas t'en occuper. » Il se racla la gorge. « Oui, mère. Ton frère peut t'aider. » Un autre silence, pendant lequel ils se consultèrent d'un coup d'œil. « Ça ne me dérange pas, » annonça Télémaque d'un ton neutre. Encore quelques bruits d'assiettes et quelques raclements de bancs. Enfin, la porte se referma derrière eux. Je me retournai vers Pénélope. « Tu me prends pour une imbécile? Une fille crédule que tu peux mener par le bout du nez? Toutes ces questions innocentes sur mon sort, dis-moi lequel des dieux te poursuit? Qui est celui dont tu as attiré la colère sur ma tête ?» Elle était assise à mon métier. Ses genoux débordaient de laine noire vierge. Par terre à ses pieds se trouvaient une broche et une quenouille en ivoire à bout argenté. « Mon fils ignore tout, » assura-t-elle. « Il n'y est pour rien. » « C'est évident. Je suis capable de repérer une araignée dans sa toile. » Elle acquiesça. « J'avoue avoir fait ce dont tu m'accuses. J'ai agi en connaissance de cause. Je pourrais prétendre que, parce que tu es une déesse et une sorcière, je ne t'occasionnerai pas beaucoup de problèmes, mais ce serait un mensonge. Je connais trop les dieux pour ça. » Son calme me mit en fureur. « C'est tout? Je sais ce que j'ai fait et je l'assume effrontément ? Hier soir, ton fils a parlé de son père comme de quelqu'un qui prend tout aux autres et ne leur apporte que du malheur en échange. Je me demande ce qu'il dirait de toi. » Cette fois, je l'avais touchée. Je vis l'air détaché qu'elle prit pour le cacher. « Si tu crois que je suis une sorcière inoffensive, tu n'as pas bien écouté les histoires que ton mari a racontées sur moi. Il y a 2 jours que tu séjournes sur mon île. Combien de repas as-tu pris, Pénélope ? Combien de coupes de mon vin as-tu bu ?» Elle pâlit. La racine de ses cheveux devint imperceptiblement grise, pareille à l'aube qui progresse sournoisement. « Parle ou j'utiliserai mes pouvoirs !»« Je crois que c'est déjà fait. » Ses paroles étaient aussi dures et froides que des pierres. « J'ai attiré le danger jusqu'à ton île, mais c'est toi qui as commencé en l'attirant chez moi. C'est mon fils qui a décidé de partir. Je ne parle pas de ton fils, et je crois que tu le sais. Je parle du javelot que tu as envoyé, celui qui a tué mon époux. » Il était donc bien là, entre nous. Sa mort m'attriste profondément. C'est ce que tu as dit. Si tu attends mes excuses, tu ne les auras pas. Même si j'avais le pouvoir de remonter le cours du temps, je ne le ferais pas. Si Ulysse n'était pas mort sur cette plage, je crois que cela aurait été mon fils, et j'échangerais n'importe quoi contre sa vie. » Une expression indéfinissable traversa son visage. J'aurais pu la qualifier de rage si elle n'avait pas autant été dirigée vers l'intérieur. « Très bien. Tu as marchandé, et voilà ce que tu as obtenu. Ton fils est vivant, et nous sommes là. » Tu vois donc ceci comme une sorte de vengeance, déchaîner la colère d'un dieu sur ma tête. Je le vois comme une forme de rétribution. Elle aurait fait un bon archer, songeai-je, avec son regard précis et glacé. Tu n'es pas en position de marchander, dame Pénélope. Nous sommes à Ehéa. Alors je ne marchanderai pas. Que préfères-tu? Que je te supplie? Bien sûr, tu es une déesse. Elle s'agenouilla au pied de mon métier et leva les mains, baissant les yeux sur le sol. « Fille d'Hélios, Circé au regard lumineux, maîtresse des bêtes et sorcière d'Ea, offre-moi l'asile de ton île redoutée, car je n'ai ni mari ni logis, et nous ne sommes en sécurité nulle part au monde, mon fils et moi. Je te fournirai du sang chaque année si tu m'écoutes. Relève-toi » Elle ne bougea pas. Avec elle, cette posture était obscène. « Mon époux a parlé de toi chaleureusement. Plus chaleureusement, je te l'avoue, que je ne l'aurais souhaité. Selon lui, de tous les dieux et les monstres qu'il avait rencontrés, tu es la seule qu'il aurait aimé revoir. J'ai dit « relève-toi !» Elle s'exécuta. « Tu vas tout me raconter et ensuite je déciderai. » Nous nous fîmes face de part et d'autre de la pièce envahie d'ombre. L'air sentait la foudre. Elle poursuivit. « Tu as parlé à mon fils. Il a sans doute laissé entendre que son père s'est perdu pendant la guerre. Puis qu'il est rentré changé, trop imprégné de mort et de chagrin pour vivre comme un homme ordinaire. La malédiction des soldats, n'est-ce pas ? Quelque chose d'approchant. Mon fils est meilleur que moi et meilleur que son père. Et il ne voit pas tout ça. Mais toi, oui. Je viens de Sparte. Là-bas, nous nous y connaissons en vieux soldats. Leurs mains qui tremblent, leurs réveils en sursaut, ceux qui renversent leur vin chaque fois qu'une trompette retentit. Les mains de mon mari étaient aussi sûres que celles d'un forgeron, et quand les trompettes retentissaient, il était le premier au port à scruter l'horizon. La guerre ne l'a pas brisé, elle lui a permis d'être davantage lui-même. À Troyes, il a enfin trouvé un champ d'action à la mesure de ses capacités. Toujours un nouveau plan, un nouveau complot, un nouveau désastre à éviter.
Il a essayé d'échapper à la guerre.
Ah, cette vieille histoire, la folie, la charrue, ça aussi c'était un complot. Il avait prêté un serment aux dieux, il savait qu'il n'y échapperait pas. Il s'attendait à se faire prendre, pour qu'ensuite les Grecs rient de son échec et croient que tous ses tours seraient faciles à déjouer. Je fronçai les sourcils.
Il n'a rien laissé entendre de tel quand il me l'a raconté.
Je suis sûre que non. Mon époux mentait comme il respirait, y compris à toi, mais aussi à lui-même. Il n'a jamais rien accompli dans un but unique.
Il a dit la même chose à ton sujet un jour. Bien que ce commentaire ait été destiné à la blesser, elle se contenta de hocher la tête.
Nous nous considérions comme de grands génies de ce monde. Au début de notre mariage, nous élaborions des milliers de plans ensemble, persuadés de faire tourner tout ce que nous touchions à notre avantage. Et puis la guerre est arrivée. Il avait beau dire qu'Agamemnon était le pire commandant qu'il ait jamais vu, il pensait pouvoir se servir de lui pour se forger un nom. Et c'est ce qu'il a fait. Grâce à ses complots, il a vaincu Troie et remodelé la moitié du monde. Moi aussi j'ai comploté. Quelle chèvre accoupler, comment augmenter les moissons, où envoyer les pêcheurs pour qu'ils remplissent leurs filets. Tels étaient les soucis pressants qui nous occupaient à Ithaque. Tu aurais dû voir sa tête quand il est rentré. Il a tué les prétendants, et ensuite, que lui restait-il ? Du poisson et des chèvres. Une femme aux cheveux grisonnants qui n'était pas une déesse, et un fils qu'il ne comprenait pas. Sa voix emplit l'espace, aussi âpre que du cyprès écrasé. Il n'y avait plus de conseils de guerre, plus d'armées à conquérir ou à commander. Les hommes qu'il avait jadis eus sous ses ordres étaient morts, puisque la moitié avait été constituée de son équipage et l'autre de mes prétendants. Tous les jours, il recevait un nouveau rapport l'informant de gloire lointaine. Ménélas avait construit un palais doré flambant neuf. Diomède avait conquis un royaume en Italie. Même Énée, ce réfugié troyen, avait fondé une cité. Mon mari a alors contacté Oreste, le fils d'Agamemnon, pour proposer ses services en tant que conseiller. Oreste a répondu qu'il disposait de tous les conseillers dont il avait besoin et que par ailleurs, il n'aurait jamais voulu troubler le repos d'un héros tel que lui. Par la suite, il a contacté d'autres fils de ses compagnons d'armes, celui de Nestor, celui d'Idoménée et d'autres, mais ils ont tous fourni la même réponse. Ils ne voulaient pas de lui. Et tu sais ce que je me suis dit ? Qu'il avait seulement besoin de temps. Qu'à un moment où il allait finir par se souvenir des plaisirs que procure un modeste logis et un foyer, des plaisirs de ma présence, et que nous recommencerions à comploter ensemble. Sa bouche se tordit d'autodérision. Mais il ne voulait pas de cette vie-là. Il descendait arpenter la plage. En l'observant depuis ma fenêtre, je me suis souvenu d'une histoire qu'il m'avait racontée à propos d'un grand serpent auquel croient les hommes du Nord, qui brûle de dévorer le monde entier.
Moi aussi, je m'en souvenais. En fin de compte, le serpent se dévorait lui-même. En marchant, il parlait dans le vide, et l'air se massait autour de lui, illuminant sa peau du plus vif éclat argenté. Argenté. Athéna. Qui d'autre ? Elle sourit d'un sourire amer et froid. Chaque fois qu'il se calmait, elle revenait, lui murmurant à l'oreille, plongeant depuis les nuages pour le remplir de rêves de toutes ses aventures manquées. Athéna, la déesse insatisfaite qui échafaudait sans cesse de nouveaux plans. Elle s'était battue pour ramener son héros, pour le voir porté au pinacle par son peuple, qui les honorait tous les deux. Elle voulait l'entendre raconter ses victoires, les morts qu'ils avaient infligées ensemble aux Troyens. Mais je me souvenais de son expression avide lorsqu'elle parlait d'Ulysse, une chouette, avec sa proie récemment tuée entre ses griffes. Son favori n'aurait plus jamais le droit de redevenir terne et domestique. Il devait vivre au cœur de l'action, être vif et raffiné, toujours sur la brèche, toujours prêt à la régaler de sa dernière manœuvre ou d'un coup de génie sorti de nulle part. Dehors, les arbres luttaient dans le ciel sombre. Sous cette lumière surnaturelle, les os du visage de Pénélope paraissaient aussi fins qu'une des statues de Dédale. Je m'étais demandé pourquoi elle n'avait pas été davantage jalouse de moi. À présent, je comprenais. Je n'étais pas la déesse qui lui avait pris son mari. Les dieux prétendent être des parents, dis-je, alors que ce sont des enfants qui applaudissent en redemandant. Et maintenant qu'Ulysse est mort, où va-t-elle en trouver un autre ? Toutes les pièces étaient en place. Je voyais enfin le tableau dans son ensemble. Les dieux ne renoncent jamais à un trésor. Elle allait venir chercher ce qu'il y avait de mieux après Ulysse, son descendant. Télémaque.
Oui.
Est-il au courant ?
Je ne crois pas. C'est difficile à dire.
Elle tenait toujours la laine emmêlée et puante entre ses mains. Ma colère était si forte que je la sentais me lacérer le ventre. Pénélope avait mis mon fils en danger. Athéna était probablement déjà en train de préparer sa vengeance contre Télégonos. Cela ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. Mais, pour être honnête, ma fureur n'était plus aussi brûlante. De tous les dieux que Pénélope aurait pu conduire à ma porte, Athéna était la plus supportable. Et Athéna pourrait-elle vraiment nous détester davantage ?
Tu crois vraiment pouvoir le garder caché d'elle ?
Je sais que c'est impossible.
Alors que cherches-tu ?
Elle avait rassemblé sa cape autour d'elle, tel un oiseau enveloppé dans ses ailes.
Quand j'étais jeune, j'ai entendu parler un chirurgien du palais. Il disait que les remèdes qu'il vendait n'étaient que de la poudre aux yeux, que la plupart des maux se guérissaient d'eux-mêmes si on leur donnait suffisamment de temps. C'était le genre de secret que j'adorais découvrir, parce qu'il me donnait l'impression d'être cynique et sage. Je prenais ça pour de la philosophie. J'ai toujours été douée pour attendre, tu sais. J'ai survécu à la guerre et aux prétendants, au voyage d'Ulysse. Je me disais qu'avec un peu de patience, je survivrais aussi à son insatisfaction et à Athéna. Qu'il y avait sûrement un autre mortel au monde qu'elle puisse aimer. Sauf qu'apparemment, ce n'était pas le cas. Et pendant que je prenais mon mal en patience, Télémaque supportait la rage de son père, année après année. Il souffrait tandis que je regardais ailleurs.
Je me souvins de ce qu'Ulysse avait un jour dit à son sujet. Qu'elle ne s'égarait jamais, qu'elle ne commettait jamais d'erreur. Ce commentaire m'avait rendue jalouse. À présent, je pensais, quel fardeau, quel poids malsain à porter.
Mais il existe de véritables remèdes en ce monde. Tu en es la preuve. Tu as foulé les profondeurs pour ton fils. Tu as défié les dieux. Je songe à toutes les années de ma vie que j'ai gâchées pour les vantardises de ce petit homme. Je l'ai payé, ce n'est que justice. Mais j'ai aussi fait payer Télémaque. C'est un bon fils, il l'a toujours été. Je veux juste passer un peu de temps avec lui avant de le perdre, avant que nous soyons de nouveau poussés dans la marée. Le permettras-tu, Circé Déa ?
Elle ne se servit pas de son regard gris avec moi. Si elle l'avait fait, j'aurais refusé. Elle se contenta d'attendre. Il est vrai que cette attitude lui allait bien. Elle semblait aussi à sa place dans l'espace qu'un joyau sur sa couronne. « C'est l'hiver, » répondis-je. Aucun bateau ne navigue en ce moment. Et Ea te supportera bien un peu plus longtemps.